Chapitre 4. Ma chère Nathalie, puisque cette brute de Turlington insiste, il aura son invitation que tu trouveras sous ce pli. Cela ne fait rien, mon enfant. Toi et Lance, vous viendrez dîner et, après le dîner, je verrai à vous ménager un aparté. Tout ce que je te demande en échange, c'est que, lorsque tu rentreras au salon, qu'on ne s'aperçoive pas que ton mari t'a embrassé. Si vous n'y prenez pas garde, vous finirez certainement par trahir le secret de ces baisers furtifs. Hier, au dîner de maman, quand tu es revenu de la serre, tu étais rouge comme un coquelicot. Même tes épaules. Je sais que tu les as belles et les hommes ont quelquefois de si étranges fantaisies. La prochaine fois, j'espère que tu mettras une chemisette si tu n'as pas assez d'autorité sur lui pour l'empêcher de recommencer. Tout à toi, Louise. L'histoire des jours qui s'étaient écoulés depuis le mariage de Lancelot et de Nathalie était tout entière dans cette lettre. Un chapitre nouveau d'une certaine importance pour la marche des événements devait être ajouté par ce qui se passa chez Lady Winwood. Les Greybrook, invités à dîner, arrivèrent de bonne heure. Laissant son mari et ses belles-filles avec Sir Joseph et Miss Lavinia, l'aimable petite femme emmena Nathalie dans son boudoir, qui était séparé du salon par une portière. « Je te trouve tout effarée ce soir, ma chère. Est-il arrivé quelque chose ?»«
Je suis à bout, Louise. La vie que je mène est si intolérable que si Lance me le demandait, je crois que je me sauverais avec lui en sortant d'ici cette nuit. »«
Tu n'en feras rien, s'il te plaît. Attends d'abord que tu aies 16 ans. » J'aime beaucoup le changement, mais j'avoue que je ne voudrais pas aller à Old Bailey pour changer. Est-ce que la brute viendra ce soir?
Bien sûr, il insiste pour me suivre partout. Il a déjeuné à Muswell Hill. Toujours des plaintes à cause de la froideur inexplicable que j'ai pour lui. Des reproches de papa, une lettre furieuse de Lance. Si je permets encore à Richard de me baiser la main devant lui, il m'avertit qu'il m'assommera. Ah, que cette vie me pèse et que je me sens coupable. Je suis dans la plus fausse des positions, Louise, et c'est toi qui m'y as poussée. Je crois que Richard se doute de quelque chose. Les deux dernières fois que Lance et moi, nous avons essayé de nous isoler une minute chez ma tante, il était toujours sur nos talons. Il fallait voir son air sournois et ses regards qui assassinaient mon pauvre Lance. « Peux-tu faire quelque chose pour nous, tantôt ? Ce n'est pas pour moi, mais Lance est si impatient. S'il ne peut pas me dire deux mots ce soir, il menace de venir demain à Muswell Hill et de me surprendre au jardin. »«
Console-toi, ma chère. Il pourra te dire ces deux mots tout à l'heure. »«
Mais comment ?»
Lady Winwood, écartant la portière, lui montra du doigt la porte du salon qui donnait sur le palier. Il y avait par là un second salon plus petit.
Nous n'aurons que 3 ou 4 personnes à dîner, reprit-elle. Les quelques autres viendront dans la soirée. Comme nous serons peu de monde, le petit salon nous suffira et le grand ne sera point éclairé. Il n'y aura que cette lampe ici dans le boudoir. Je donnerai le signal de nous lever de table plus tôt que d'habitude. Lance quittera ces messieurs pour venir nous rejoindre au bout d'un quart d'heure dans le petit salon. « Dès que tu le verras paraître, envoie-le ici hardiment devant ta tante. »«
Sous quel prétexte ?»«
Pour chercher ton éventail. Cache-le ici sous ce coussin avant de descendre à la salle à manger. Tu seras placé à côté de Lance et tu lui recommanderas de rester longtemps. Alors tu t'impatientes et tu vas chercher toi-même. Ce n'est pas plus malin que cela. Mais gare à tes épaules, je ne te dis que ça. » Les invités arrivés, Lady Winwood alla faire les honneurs de son salon. Le dîner fut très agréable, seulement on se mit à table un peu tard. Les dames ne se rendirent au petit salon que 10 minutes avant 10 heures, et Lance ne put les rejoindre qu'au moment où 10 heures sonnaient à la pendule.
« Trop tard !» lui dit tout bas Nathalie. « Il sera ici dans un instant. »
« Personne ne vient à une soirée à l'heure précise, » repartit Lance. « Ne perdons pas de temps. Envoyez-moi chercher l'éventail. » Nathalie ouvrait la bouche pour prononcer les paroles convenues quand le domestique annonça M. Turlington. Il fit son entrée, le cou serré dans un col très haut et très raide, habillé de vêtements trop larges en drap noir d'un lustre extraordinaire. Après avoir salué gauchement la maîtresse de la maison, il se précipita selon son habitude vers Nathalie, dont les yeux brillaient encore d'animation, contraste étrange avec la froide indolence qu'elle affichait lorsqu'elle était obligée de subir la conversation de Turlington. Les filles de Lord Winwood jouissaient d'une certaine célébrité parmi les amateurs de musique. Voyant le regard que Turlington jeta sur Lance, Lady Winwood dit un mot à l'oreille de Miss Lavinia, qui aussitôt pria à ces demoiselles de chanter quelque chose. Lancelot, sur un signe de Nathalie, choisit un cahier qu'il alla placer sur le piano. Lorsqu'il l'ouvrit, il s'en échappa une circulaire imprimée. L'une des jeunes filles l'ayant ramassée, « Les concerts de musique sacrée !» s'écria-t-elle avec une expression de regret. Ses deux sœurs se récrièrent à leur tour. « Que dira le comité des dames ? Nous avons oublié la séance du mois dernier. Est-ce qu'il n'y en a pas une ce mois-ci ? » On constata qu'il y avait une séance le 23 décembre et Miss Amélie s'empressa d'inscrire cette date sur son calepin sous les yeux du mari non reconnu de Nathalie, lequel assistait à cet incident d'un air placide. L'ironie du sort faisait de lui l'innocent instrument de la découverte de son secret, car il venait d'arranger deux jours trop tôt une rencontre des filles de Lord Winwood avec leur ami de pension. Peu à peu arrivaient les invités pour la soirée. Les convives de Lord Winwood quittèrent la table et vinrent au salon qui commençait à se remplir. Sir Joseph Graybrook prit Turlington par la main pour le présenter au maître de la maison. Lord Winwood n'était pas content de quelques-uns de ses placements. Turlington, mieux que personne, pouvait lui donner des conseils. Ils se retirèrent donc dans l'embrasure d'une fenêtre pour traiter la question à fond. Lance, qui les épiait, pressa la main de Nathalie. Un virtuose renommé venait d'arriver et s'était déjà emparé du piano. On l'écoutait avec recueillement. L'occasion était propice pour aller chercher l'éventail. Au bout d'un moment, le couple amoureux se trouva seul dans le boudoir. Lady Winwood, qui avait remarqué leur disparition, ne perdit pas de vue Turlington. Il parlait avec animation et tournait le dos à la compagnie. Lord Winwood prit la parole, il l'écouta sans changer d'attitude. Quand ce fut le tour de Sir Joseph, comme il savait d'avance ce qu'il allait entendre, il tourna la tête et ses yeux cherchèrent Nathalie. Une remarque de Lord Winwood le rappela au débat. Mais Sir Joseph, ayant ressaisi le fil de ses explications, il se détourna de nouveau et, cette fois, il regardait la place vide de Lancelot. À ce moment, son hôte lui adressait une question à laquelle il fut obligé de répondre et il dut interrompre ses recherches. En même temps, deux personnes de la société qui voulaient encore profiter d'une autre invitation venaient prendre congé de Lady Winwood et s'engager dans des politesses qui ne finissaient pas en lui dérobant la vue de l'ennemi. Lorsqu'elle fut enfin libre et qu'elle regarda du côté de Turlington, il n'y avait plus que son mari et Sir Joseph dans l'embrasure. Sans perdre un instant, elle pria le célèbre virtuose de se remettre au piano et sortit sur le palier. En franchissant le seuil du grand salon vide, elle entendit la voix de Turlington dans son boudoir, sourde et menaçante. La jalousie a une seconde vue. Il était allé directement au bon endroit et, ciel, il les avait surpris. Le courage de Lady Winwood n'avait jamais été mis en doute. Cependant, elle était fort pâle lorsqu'elle toucha la portière. Nathalie était là, à la fois irritée et effrayée, entre l'homme à qui elle était ostensiblement destinée et celui auquel elle était réellement mariée. Turlington suffoquait de rage. Lance présentait à Nathalie son éventail avec le calme sourire de l'homme qui est sûr de son affaire et qui ne s'en cache pas. « Je vous défends de prendre votre éventail des mains de cet homme, » dit Turlington d'une voix sourde. « Vous commencez de bonne heure, monsieur, » fit observer Lady Winwood, essayant de plaisanter. « C'est exactement ce que je dis, » s'écria Lancelot. « Monsieur Turlington nous oblige à lui rappeler qu'il n'est pas encore le mari de Nathalie. » Ces paroles furent prononcées sur un ton de défi qui donna le frisson aux deux femmes. Lady Winwood prit d'une main l'éventail que tenait toujours Lance et de l'autre saisit le bras de Nathalie. « Voici ton éventail, ma chère, » dit-elle avec cette aisance dont elle avait le secret. « Comment peux-tu te laisser retenir ici par ces deux barbares pendant que notre grand Botman joue sa sonate du cauchemar ? Lance, monsieur Turlington, suivez-moi et apprenez à écouter la musique moderne. » Vous n'aurez qu'à fermer les yeux et vous croirez entendre quatre compositeurs allemands au lieu d'un seul. » Elle se dirigea vers la porte avec Nathalie et, très bas, « Vous a-t-il surpris ? » dit-elle. « Je l'ai entendu venir, » répondit Nathalie sur le même ton. « Il nous a vus seulement cherchant l'éventail. » Les deux hommes restaient en arrière pour avoir deux mots d'explication ensemble. « Nous n'en avons pas fini, monsieur Lindsay, » dit Turlington. Un sourire ironique effleura les lèvres de Lancelot. « Pour la première fois, je suis de votre avis. Nous n'en avons pas fini. » Lady Winwood s'était arrêtée sur le seuil et tournait la tête. Il la faisait attendre, il fallut suivre la maîtresse de la maison. Rentrés dans le petit salon, Lance et Turlington reprirent leur place parmi les invités, ruminant tous deux la même pensée. Chacun avait sa plainte à porter devant Sir Joseph. Lance fut encore le premier à s'emparer de l'oreille du père de Nathalie. Il protesta contre la jalousie de son rival et sollicita le rappel de la sentence qu'il avait exclue de Muswell Hill. Turlington, qui les guettait de loin, crut s'apercevoir que leur entretien devenait fâcheusement intime. Il se glissa derrière eux et tâcha d'écouter. Le grand Botman était arrivé à ce passage de la sonate du cauchemar où sa main gauche, errant sur le clavier, fait naître dans l'esprit des auditeurs l'image de la lune qui se lève sur un cimetière de village pour éclairer une danse de vampires autour de la tombe d'une jeune fille. Sir Joseph, pour se faire comprendre, fut obligé d'élever la voix. Turlington l'entendit dire à Lance qu'il l'aimait beaucoup, que Nathalie était dans les mêmes sentiments, mais qu'il était impossible de s'exposer à être trouvé en faute par Richard. Là-dessus, Sir Joseph fit à son neveu un signe de tête amical et le quitta, refusant de prolonger l'entretien. La défiance jalouse de Turlington était surexcitée depuis quelques semaines. Il songeait aux paroles de Lance, qui, tout à l'heure, lui avait rappelé qu'il n'était pas encore le mari de Nathalie. Se tramait-il quelque chose contre lui? Était-ce une conspiration pour faire revenir Sir Joseph sur la parole donnée? Dans son irritation, il ne se rendit pas compte du peu de probabilité de cette hypothèse. Il résolut d'éclairer immédiatement ses doutes en prenant le père de Nathalie à l'improviste. « Greybrook !» Sir Joseph fut effrayé de l'expression des traits de son futur gendre. « Mon cher Richard, dit-il doucement, vous avez une mine si étrange. Est-ce que la chaleur vous incommode ?»« Ne vous occupez pas de la chaleur. J'en ai vu assez ce soir pour exiger que vous ne laissiez plus votre fille et Lancelot Lindsay se rencontrer avant le jour du mariage. » Sir Joseph voulut parler. Turlington le prévint. « Oui, je sais, vous ne partagez pas mon opinion sur Lindsay. Qu'avez-vous encore comploté ensemble ?» Sir Joseph essayait toujours de se faire écouter. Il voulait expliquer à Richard de quoi il s'agissait entre lui et son neveu. Mais l'autre lui coupait la parole. « Je ne puis empêcher Lindsay d'être reçu dans cette maison et chez votre sœur, mais je suis le maître chez moi et c'est là que je veux vous conduire. » Vous viendrez à ma campagne. Êtes-vous engagé pour la semaine de Noël ? Il s'arrêta, fixant son regard sur les yeux de Sir Joseph. Celui-ci, un peu surpris, répondit qu'il n'avait pas d'engagement. « Eh bien, alors, je vous emmène dans le Somersetshire et le mariage sera célébré chez moi au lieu de l'être chez vous. Est-ce entendu ?»«
Ce que vous proposez est contraire à l'usage, Richard, » commença Sir Joseph.
« Vous refusez ? Dans ce cas, je ne vous le cache pas, je croirai que vous avez des motifs particuliers. »«
Non, Richard, » dit tranquillement Sir Joseph, « j'accepte. »
Ce fut au tour de Richard d'être surpris.
« Cela va déranger toutes nos combinaisons et donner beaucoup de troubles à ces dames, » poursuivit le vieux gentleman. « Cependant, s'il n'y a que ce moyen de vous contenter, soit je me résigne. » « Demain, j'aurai peut-être besoin à mon tour de votre indulgence pour une demande qui pourra vous étonner. Le moins que je puisse faire, c'est de vous donner l'exemple de la tolérance. Mais brisons-la. » Il fut impossible de tirer de lui autre chose ce soir-là. Pour comprendre l'allusion mystérieuse qui avait terminé leur entretien, Turlington se vit réduite aux seules ressources de son épais cerveau. Le rendez-vous qu'il devait avoir le lendemain avec Sir Joseph avait été pris pour régler les conditions du contrat. S'agissait-il d'argent dans cet appel du futur beau-père à l'indulgence de son gendre ? Turlington songeait à sa situation. La crise commerciale se prolongeait. En aucun temps, ses affaires n'avaient réclamé à un tel degré toute son attention et jamais ses efforts n'avaient produit de si minces résultats. Les connaissements avaient été employés à prendre possession des marchandises qu'ils représentaient et les doubles laissés entre les mains des frères Bulpit étaient désormais des chiffons sans valeur. Encore un mois et il faudrait rendre le prêt de 40 000 livres avec les intérêts. Voilà la situation. Fallait-il penser que Sir Joseph, un homme d'argent, avait l'intention de changer quelque chose à leur convention touchant la dot? La seule idée de cette éventualité lui donnait froid dans le dos. Il quitta la soirée sans même penser à prendre congé de Nathalie. Lance était parti avant lui. En rentrant, il trouva une lettre de son frère. Elle renfermait un long rapport de police accompagné du résumé suivant. S'il ne s'agissait que d'une certitude morale, notre but serait atteint. L'identité de Turlington et du capitaine qui fit jeter à la mer le matelot étranger pour le noyer est désormais hors de doute. Cependant, les preuves matérielles seraient difficiles à fournir. Il ne nous reste qu'une chance. Il y a lieu de croire qu'un matelot de son équipage, qui était dans ses secrets, vit encore et reçoit une pension de lui. Si nous pouvions le découvrir et le faire parler, il nous serait d'un précieux secours. On ne sait pas sous quel nom il se cache maintenant. Son vrai nom est Thomas Vilfang. Si nous devons le chercher, il ne nous faut pas perdre de temps et les dépenses pourraient être considérables. Faut-il marcher ou en rester là ? Lancelot se dit que ce qu'il savait maintenant pouvait suffire pour éclairer le père de Nathalie sur le compte du gendre qu'il avait choisi et pour lui faire accepter ce qui était irrévocable. Il s'assit immédiatement pour écrire à son frère qu'il jugeait inutile de pousser plus loin leurs recherches.